Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir, ou plutôt rebonsoir, au menu du débat de ce soir, l'état d'urgence qui est actuellement appliqué en France. Depuis quelques jours, des critiques ont émergé dans la presse, dans la société civile, mais aussi dans l'hémicycle. À droite comme à gauche, on signale des dérives, des assignations à résidence, des interdictions de manifester, des perquisitions abusives. Face à ce qui commence à ressembler à une levée de bouclier, le président de la commission des lois de l'Assemblée a présenté aujourd'hui un système de contrôle. C'était prévu, mais il l'a qualifié d'inédit. Alors, faut-il craindre des dérives dans l'application de cet état d'urgence? L'état d'urgence est-il utilisé plus largement que pour lutter contre le terrorisme? C'est le débat de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Michel-Antoine Thiers, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, le SCSI, c'est ça?
Oui, c'est pas facile à dire, on s'en excuse, mais c'est ça.
C'était plus simple avant. Ouais.
Voilà, et puis le deuxième invité, Laurent Boredon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au journal Le Monde et vous êtes notamment à l'initiative d'un observatoire de l'état d'urgence qu'on peut consulter d'ailleurs en ligne, qu'on peut lire délinquance.blog.lemonde.fr.
Nous faisons face à un acte de guerre, un acte terroriste avec une menace précise. Pour faire face à cette menace, à ces actes qui touchent notre démocratie, qui visent à nous mettre en cause cette démocratie, cette liberté, il faut se protéger. C'est le sens de l'état d'urgence.
Voilà, c'était le Premier ministre Manuel Valls qui justifiait encore une fois il y a deux jours chez nos confrères d'Europe 1 le recours à l'état d'urgence après les attentats qui ont frappé la France. Alors quelques chiffres pour commencer. Le dernier bilan officiel fait état en 15 jours de 2235 perquisitions, de 346 ouvertures de procédures judiciaires, de 330 assignations à résidence. Michel-Antoine Thiers, est-ce que ces chiffres démontrent pour vous l'efficacité de cet état d'urgence?
L'efficacité, on en parlera quand le bilan sera dressé des procédures judiciaires justement qui ont succédé aux perquisitions, puisque c'est là pour l'essentiel le résultat de l'état d'urgence. Mais il y a une autre efficacité qui est plus difficile à mesurer, c'est l'efficacité en matière de prévention. Effectivement, l'état d'urgence renvoie à l'idée d'un état qui agit, qui ne reste pas dans l'expectative, qui anticipe. Et de ce point de vue-là, bah, effectivement, c'est une approche par la fermeté qui se justifie par les circonstances et qui se justifie parce que on reste dans le domaine de l'application de la loi, même si c'est un droit un peu exceptionnel qui s'applique. Et à ce niveau, cette efficacité-là, effectivement, elle est très difficile à mesurer pour l'instant.
Laurent Boredon, que vous évoquez à vous ces chiffres?
Ils évoquent un grand flou. Déjà, ils évoquent grosso modo une part d'interpellation qui est à peu près autour de 10%. Alors, on commence un peu à augmenter. On sent que peut-être les objectifs deviennent un peu plus serrés, un peu plus cadrés, un peu plus ciblés. Ça veut dire qu'il y a quand même entre 80 et 90.
C'est la ratio entre les perquisitions et les ouvertures de procédures,
et les interpellations, sachant que toutes les interpellations en plus ne donnent pas lieu à garde à vue. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un grand nombre de cas également qui ne donnent lieu ni à interpellation ni à garde à vue. Dans ces cas-là, on peut pas exclure que ça donne lieu à la fourniture de renseignements pour les services de police, de renseignements qui peuvent être utiles par ailleurs. Mais finalement, je pense qu'il y a un chiffre qui est peut-être plus important et par rapport à la compréhension que peut avoir le public de l'utilisation de ces mesures dans ce cadre de réaction à des attentats terroristes, c'est zéro, c'est-à-dire le nombre de procédures ouvertes pour terrorisme à la suite de ces perquisitions.
Alors sur ce chiffre, peut-être une réaction?
Bon, là, pour le coup, avis partagé. Effectivement, la plupart des procédures qui ont été engagées concernent des infractions de droit commun qui ont été révélées de façon fortuite à l'occasion des perquisitions administratives. Mais encore une fois, l'objectif n'est pas nécessairement, à travers ces perquisitions ou toutes les autres mesures liées à l'état d'urgence, l'assignation à résidence, etc., l'objectif n'est pas forcément de faire la procédure judiciaire. Or, on peut avoir les services de police, les services de renseignement, on peut avoir des doutes, des suspicions qui ne sont pas forcément étayées de façon très très claire, en tout cas pas suffisante pour engager les procédures judiciaires, et à travers ces opérations, eh bien, on lève un doute, c'est-à-dire on supprime une part de risque, une part d'incertitude qui pèse et qui occupe les services. Bon, ben, à travers ces opérations-là, si exceptionnelles qu'elles paraissent, ben, on purge un petit peu ce risque qui est là de façon latente et qu'on n'a pas pu évacuer jusqu'alors.
Alors, on lève des doutes, parfois avec une manière contestable. Hein. Il y a quelques exemples que vous avez relevés dans votre observatoire de l'état d'urgence, Laurent Boredon. Quel type d'abus vous avez recensé ?
Alors, il faut voir qu'évidemment, tout ça s'est fait, comme son nom l'indique, dans l'urgence, avec parfois des perquisitions, notamment pour les perquisitions... dont on sent que ni les objectifs, ni la manière, ni le modus operandi étaient extrêmement bien préparés, puisque les services ont dû réagir extrêmement vite à un choix politique qui était de montrer à l'opinion qu'on agissait après des attentats particulièrement atroces. Donc, il y a eu déjà un certain nombre de perquisitions avec tout simplement parfois des erreurs d'adresse, parfois une surréaction policière, c'est-à-dire qu'on arrive à 30 pour perquisitionner chez une famille tranquille, donc y compris parfois à Nice, c'est une des premières histoires qu'on a racontées où une petite fille a été blessée. En plus, c'était non seulement il y avait beaucoup de policiers par rapport à la perquisition, mais en plus ils se sont trompés d'adresse et au final une petite fille a été blessée. C'est anecdotique, sauf que ça dit aussi effectivement un degré d'impréparation au départ. Ensuite, nous, ce qu'on relève et ce qu'on a relevé aujourd'hui plus spécifiquement, parce qu'on fait à la fois on raconte des histoires, à la fois on fait des points un peu spécifiques. Par exemple, c'est actuellement un usage des menottes qui est pas très légal, puisque le cadre d'usage des menottes est extrêmement clair dans la loi et que clairement il ne s'applique pas aux perquisitions administratives.
Alors, on va revenir sur les menottes, mais je voudrais d'abord vous faire réagir, Michel-Antoine Thiers, sur cette impréparation, sur ces imprécisions, sur les adresses par exemple. Comment ça s'explique ?
Vous savez, ça c'est pas spécifique à l'état d'urgence. Il y a de nombreuses situations en matière judiciaire, c'est-à-dire dans le droit commun, des enquêtes normales accomplies tous les jours par les services de police. Parfois, on se trompe de porte quand on va interpeller quelqu'un, tout simplement parce qu'on sait qu'il habite au quatrième étage, mais on n'est pas certain sur ce palier de quelle porte.
Pardonnez-moi pour l'expression, voilà. Mais quand on défonce une porte, puisqu'il y a eu des cas qui sont recensés, est-ce qu'on peut se permettre de se tromper de porte ?
Ah mais je vous le dis, oui, et puis ça arrive pas si rarement que ça. Il y a des fois, effectivement, on défonce 4-5 portes avant de tomber sur la bonne. Alors, c'est malheureux, mais ça fait partie des aléas du métier, on va dire. Et puis d'ailleurs, les frais de remise en état sont assurés par l'État quand ça arrive. Donc ça, je dirais que c'est pas spécifique à l'état d'urgence. Par contre, la surinvestissement en termes de moyens peut dénoter, effectivement, parfois, au niveau territorial, selon les préfets, peut-être, la volonté d'afficher de façon un petit peu excessive le fait qu'on réagit, qu'on est là, qu'on est présent.
C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que parfois la police est un peu instrumentalisée dans cette affaire à des fins politiques ?
Ah ben, le risque ne peut pas être exclu, c'est évident. En plus, l'état d'urgence, il faut bien comprendre, c'est une mesure d'essence politique. On n'est pas, certes, c'est prévu par la loi, mais avant tout, c'est un acte politique. Donc, évidemment, la façon dont il s'exprime sur le terrain est aussi marquée politiquement. De ce point de vue-là, il est évident que les autorités, au plan local, peuvent avoir la tentation de surexposer leur action.
Et c'est d'ailleurs là où le rôle des médias a été important, puisque on voit que sur la question des portes, qui est pour le coup, qui n'a pas été anecdotique, puisqu'effectivement, la plupart des perquisitions qui ont été faites vraiment au lendemain de l'état d'urgence, les policiers arrivaient et défonçaient de manière systématique les portes sans même sonner. À l'intérieur des locaux, en présence du propriétaire, parfois défoncer des portes, alors que le propriétaire, ça on l'a raconté, leur disait « mais je vais vous l'ouvrir la porte, je vais vous l'ouvrir ». Tout ça a été bien médiatisé par nous et par d'autres, et ça a donné lieu à une circulaire de Bernard Cazeneuve le 25 novembre,
le ministre
de l'Intérieur, qui a permis de clarifier certains aspects et peut-être de refroidir les ardeurs de certains préfets qui, effectivement, avaient tendance à lâcher la bride sur les services de police sur ces questions-là.
Donc, refroidir plutôt les ardeurs de certains préfets et pas de la police. Vous avez la même analyse ?
Oui, analyse partagée à cette nuance près les services de police... relativement à l'état d'urgence, ne dispose d'aucun texte fixant les modalités de leur action. La loi sur l'état d'urgence qui date, dans sa version qui date de 1955, par exemple, ne prévoit pas les contrôles d'identité. Mais les contrôles d'identité en 1955 se pratiquaient pas du tout de la même manière qu'en 2015.
Donc vous soulignez un flou juridique. Vous n'avez pas assez de textes pour
vous aiguiller. Bien évidemment. Et à ce niveau-là, même si c'est pas le lieu et l'endroit, c'est pas de lancer des fleurs, mais le travail travail du Parlement, actuellement conduit, est éminemment nécessaire et intéressant.
Alors justement, vous parlez du contrôle du Parlement. Je le disais dans l'introduction, Jean-Jacques Urvoas, le président de la Commission des lois, a aujourd'hui expliqué, c'est un proche du Premier ministre de Manuel Valls, a expliqué qu'il allait mettre un contrôle en place, un contrôle inédit. Laurent Boredon, est-ce que vous avez été convaincu par les mots et par ce qui a été annoncé en matière de contrôle de cet état, de l'application de cet état d'urgence?
Franchement, pour être très critique au quotidien sur l'application de l'état d'urgence, je peux dire que oui, on a été, nous, enfin, on est assez convaincus par le dispositif mis en place, qui après devra faire ses preuves, ça va de soi. Ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que souvent l'Assemblée ou le Sénat enquête a posteriori un peu trop tard par rapport aux événements, d'une part.
Alors que là, ça va se faire en temps réel.
Voilà, en temps réel. Et que d'autre part, souvent, ils sont un peu dans une position de « on va auditionner les grands pontes, et puis ça va nous suffire, ils vont nous balancer 2-3 chiffres globaux, et puis ça ira ». Là, l'idée de Jean-Jacques Urvoas et de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, c'est effectivement de s'appuyer sur les délégués locaux du Défenseur des droits, qui est une autorité constitutionnelle indépendante, de s'appuyer sur les associations de défense des droits de l'homme, pour faire remonter un maximum de cas, et également de faire pression, de demander à Bernard Cazeneuve qu'il a accepté une remontée systématique de toutes les perquisitions, toutes les assignations, toutes les mesures liées à l'état d'urgence vers le Parlement. Donc là, on est face à un contrôle parlementaire qui, je crois, en France, est de même concernant toute chose assez inédit parce que en général, il y a quand même toujours un décalage par rapport à ce qu'on peut voir dans certains pays anglo-saxons.
Alors là-dessus, Michel-Antoine Thiers, contrôle en temps réel, données statistiques hebdomadaires, là aussi, vous dites, vous saluez ce dispositif qui est mis en place?
Oui, l'initiative est non seulement opportune, mais également intelligente. Alors, vous voyez, les fleurs, elles tombent aujourd'hui. Mais effectivement, le seul contrôle qui pouvait exister sur les actes de police faits dans le cadre administratif, qui est l'état d'urgence, initialement, c'était le contrôle du juge administratif. Alors, il ne s'agirait pas de les vexer, les magistrats administratifs, mais ce contrôle-là ne servait strictement à rien. En instaurant un contrôle du Parlement, effectivement, la Commission des lois propose un contrôle qui a une nature avant tout politique, parce qu'il ne s'agit pas, c'est pas un contrôle par lequel on se permettra d'annuler des actes ou de réparer des préjudices.
Non, ça a été extrêmement bien précisé, effectivement, par les parlementaires.
Le cadre, c'est un contrôle politique, c'est-à-dire que les élus de la nation peuvent à l'instant T dire au ministre de l'Intérieur là, vous allez trop loin, vous dépassez les limites, c'est plus, ça répond plus aux besoins, aux nécessités de l'état d'urgence, il y a trop d'affaires parallèles qui sont en fait purgées à travers ce prétexte-là. Et à partir de là, je dirais qu'il y a un contrôle intelligent qui s'opère.
Alors, je voudrais qu'on écoute Jean-François Julliard, qui est directeur général de Greenpeace France.
On a eu le sentiment au début que les choses allaient dans la bonne direction, parce qu'on a bien compris, après les attentats, quand il y a eu l'interdiction d'un certain nombre de manifestations, de marches, etc., on était conscients, nous aussi chez Greenpeace, de l'enjeu sécuritaire. Mais depuis, on a le sentiment qu'on fait face à un deux poids deux mesures, parce qu'on n'a pas compris pourquoi les grandes marches pour le climat ont été interdites, alors que tout un tas d'autres événements sportifs, culturels, je pense à un marathon à La Rochelle, je pense au marché de Noël à Paris, et ces événements-là ont été maintenus. Et là, on a le sentiment aujourd'hui que l'état d'urgence sert de plus en plus de prétexte, de caution, à réduire un peu les voix critiques et dissidentes qui s'expriment autour de la COP21. Et ça nous inquiète.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que l'état d'urgence est utilisé à des fins politiques en ce moment?
Oui, clairement. Quand on voit un certain nombre d'assignations à résidence de militants qui ne se justifient absolument pas, il y a eu plus d'une vingtaine de militants qui ont été assignés à résidence. Et on a le sentiment, finalement, qu'on a voulu empêcher ces militants de s'exprimer ou de rejoindre un certain nombre de manifestations ou d'événements.
Voilà, Laurent Boredon, il y a beaucoup de choses dans ce que dit Jean-François Julliard. Le côté deux poids deux mesures dans ces interdictions, est-ce que ça vous étonne, est-ce que ça vous inquiète?
En tout cas, c'est assez avéré. Autant l'interdiction de la marche pour le climat dans Paris pouvait répondre à...
Donc c'était le 29 novembre, la veille du début de la COP.
Pouvait répondre à certains impératifs, autant on a vu effectivement se multiplier en province des interdictions de manifestations revendicatives, alors même que des manifestations festives comportant exactement le même type de risque et appelant à quasiment le même déploiement de forces de sécurité étaient maintenues. Donc là, il y a eu effectivement une sorte d'utilisation de confort par les préfets de l'état d'urgence Il faudrait pas que ça dure trop longtemps, j'ai envie de le dire. Bon, sous le coup un peu de on a tous été effectivement un peu dans la stupeur après cet attentat, voilà. Mais là maintenant, il faudrait peut-être un peu que les choses reprennent leur cours normal de ce point de vue-là.
Michel-Antoine Thiers, sur ces interdictions de manifester, le côté deux poids deux mesures.
Pas tout à fait d'accord. Il y a effectivement un deux poids deux mesures, mais la potentialité de trouble à l'ordre public de ces manifestations qui sont effectivement traitées différemment, en réalité n'est pas le même. Le risque est le même que ces manifestations soient l'occasion de faire des victimes pour de potentiels terroristes. Là-dessus, on est d'accord. Par contre, les risques de dérapage de ces manifestations et donc d'une suroccupation des forces de l'ordre qui seraient amenées à contrôler ces dérapages, par contre, là, le risque n'est pas du tout le même. Quand vous encadrez un marathon, vous avez très peu de chances que ça dérape par rapport à une manifestation dans laquelle vous pouvez suspecter l'intervention d'éléments extrémistes, type Black Bloc et compagnie. Là, l'impact sur les forces de l'ordre n'est pas du tout le même.
Laurent Bredon, sur cette volonté de museler une certaine opposition, vous avez la même lecture que Jean-François Julliard ?
Moi, je peux que constater effectivement une volonté. Alors, les assignations à résidence de militants dans le cadre de la COP21, elles sont symboliques dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elles sont symboliques en termes d'efficacité, parce que c'est certainement pas en assignant à résidence 24 ou 26 personnes, je ne sais plus, mais que on va empêcher les éléments extrémistes d'agir lors des manifestations. Et elle est symbolique aussi parce qu'effectivement, elle marque quand même politiquement l'idée que on ne renoncera pas à effectivement tenter de museler ces éléments-là. Un autre aspect qui était intéressant quand même là-dessus, c'est qu'il y a eu là aussi pas mal de sur le choix des militants, sur ça a un peu louvoyé, c'était pas très très précis, donc on sent là aussi que on savait pas trop qui choisir.
Une impréparation, celle dont on parlait peut-être au début. Alors Manuel Valls a quand même annoncé il y a deux jours qu'une réforme constitutionnelle allait être proposée, qu'elle aurait pour objet entre autres de faire inscrire cet état d'urgence dans la Constitution. Michel-Antoine Thiers, est-ce que ça vous paraît approprié?
Oui, parce qu'il y a véritablement une instabilité juridique dans cette loi de 1955, instabilité qui tient pas à son origine, mais qui tient simplement au temps écoulé depuis, parce que l'ensemble du droit, ce qu'on appelle le droit positif, c'est-à-dire l'état des lois à l'heure actuelle, a considérablement évolué depuis 1955.
Des lois un petit peu obsolètes.
Mais voilà, et le texte a déjà été toiletté par le Parlement à l'occasion de la prolongation de l'état d'urgence, mais il y a encore beaucoup à faire en ce domaine pour arriver à un cadre juridique qui soit à la fois une réponse adaptée aux nécessités de l'ordre public, mais également qui préserve suffisamment les libertés.
Laurent Bordon, sur ce point, la prolongation de l'état d'urgence, l'inscription dans la Constitution.
Oui, il y a un peu un risque que nous avons pointé, nous, dans le journal, en révélant les premiers éléments sur lesquels travaille l'Élysée. Il y a un peu un risque de fuite en avant. Et notamment, en fait, on a créé un fait accompli aujourd'hui avec, comme vous l'avez dit au début de l'émission, plus de 300 assignés à résidence. Une fois qu'on les a assignés à résidence, eh bien, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va en faire quand l'état d'urgence va se terminer? Donc, on essaye de régler ce problème par la voie législative. Peut-être qu'il aurait été pas mal de se poser la question avant de les assigner à résidence, de savoir si cette mesure-là était effectivement la plus pertinente et la plus durable.
Mais au-delà de ça, est-ce que ça vous inquiète? Parce qu'il y a quand même une forte portée symbolique à l'inscription dans la Constitution de l'état d'urgence.
Je pense que c'est surtout toutes les mesures qui vont avec et qui ne sont pas concernées directement par la réforme constitutionnelle, mais par une réforme pénale qui suivra, qui sont les plus inquiétantes.
Lesquelles?
Il y a un certain nombre de mesures.
Il y a aussi la déchéance de nationalité.
Concernant, voilà, il y a la déchéance de nationalité sur laquelle on a fait un éditorial au Monde aujourd'hui. Il y a aussi un élargissement d'un certain nombre de choses dans le cadre administratif, comme la possibilité de procéder à des saisies. Il y a énormément de choses qui sont en projet aussi, qu'on n'a pas encore publiées. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à nos trois invités, Michel-Antoine Thiers, secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, Laurent Bredon, journaliste au journal Le Monde, Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. Merci également à Valentin Vaner, Florence Ponce pour la réalisation et la préparation de cette émission. On se retrouve demain, un débat sur le Venezuela, mais tout de suite c'est le journal en français facile.